Hello and welcome to Tour de Table, a podcast series dedicated to a bilingual discussion of the political, economic, and security challenges confronting our world and whether and how Canada is prepared to address them. I'm Jennifer Welsh, Professor of Global Governance and Security at McGill University, where I direct the Center for International Peace and Security Studies.
Et je m'appelle Frédéric Mérand, professeur et directeur du département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Jennifer.
Bonjour. In this set of episodes on Tour de Table, we're focusing on the United Nations, its secretariat, its agencies, and some of its core doctrines and treaties, as well as its historical evolution and current challenges to its mandate. Today, we are going to discuss the Universal Declaration of Human Rights, which is 75 years old this year. The declaration was adopted by the UN General Assembly in December 1948 by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions, and it stands as the most translated document in the world. Building on the preamble of the UN Charter, the UDHR, as it's known, set out for the first time fundamental rights to be universally protected, and its first articles declare that all human beings are born free and equal in dignity and rights. The president of the General Assembly at the time, Australian diplomat H.V. Evatt, called the adoption of the declaration the first step in a great evolutionary process. Millions of people, men, women, and children all over the world will turn for help and guidance and inspiration to this document. Now, subsequent history shows that in the struggle for human rights, in many different contexts, people have indeed employed the Universal Declaration, and the treaty bodies of the UN system have built upon it and facilitated its implementation. Yet we also know today that human rights remain a work in progress. They're routinely violated in many contexts. Their universality is challenged. And there are some who have described our current era as the end times of human rights. So to help us unpack the Universal Declaration and its evolution, we are joined by Kedi Nivyabandi. Kedi is the Secretary General of Amnesty International Canada, the English section. She has a deep and lived experience defending human rights and democracy. She's known for her role in the 2015 protests in Burundi, where she led the country's first women-only protest and was a founding member of the Women and Girls Movement for Peace and Security in Burundi. She was forced to flee the country when she was targeted by the government for her activism and now lives in exile in Canada. In addition to her activism, Kedi is also an accomplished essayist and poet. She once wrote that the Universal Declaration, despite its non-binding and imperfect nature, is our global moral spine. And it saddens me that we do not use it more fully. Thank you for coming on Tour de Table, Kedi.
Thank you, Jennifer. Merci, Frédéric.
So in the context of the most recent G7 meeting in Hiroshima, Volker Türk, who's the current UN High Commissioner for Human Rights, called on G7 countries to rekindle the spirit of the Universal Declaration of Human Rights. Can you unpack this a bit for us? What is that spirit of the UDHR, and what was the context that created it?
Yes, I think he also referred to it as a miraculous document at the time. So 1948, we are just fresh out of the Second World War. The world has realized the atrocities that human beings are capable of. I think there is a sobering sort of state across the world, particularly in Western world, and a sense of, let us ensure that this doesn't happen again. Of course, we've had the United Nations Charter, we have the Genocide Convention as well, and the Universal Declaration of Human Rights comes as part of those packages, of those deep moments of realization that we need more to ensure that human beings across the world are treated equally and that everybody deserves the same access to fundamental rights. And so, you know, the first draft, which was actually done by a Canadian under the oversight of Eleanor Roosevelt, who was a crucial part and who engaged in very active advocacy behind the scenes to make sure that the text was actually adopted, seized the moment and understood that we were at a historical crossroad and that therefore a fundamental text like this one was possible. There was debate around the text, but eventually the draft was adopted, as you mentioned, in Paris, with a few abstentions, but really no denials and no exclusion from any country, which is remarkable when you think about it. And I think when he refers to it as miraculous, it's perhaps because were we to try to have countries adopt that same document today, I think we would have a very hard time in achieving consensus around that. So that spirit has shifted. There was a sense of a spirit of unity, of realization that our destinies as individual countries depended on a common trajectory. Of course, this happened while a lot of countries were still under the domination of colonization. It would be amiss not to mention that, and not to mention that a number of individuals and peoples and countries still did not fully enjoy their rights. So there's a level of perhaps hypocrisy there. But I think the intent, the intention is what truly matters and what perhaps may outlive those challenges of the time. And I think when both Volker Türk and others talk about rekindling that spirit, that is what it's about. It's about going back to a drawing board and a realization that our future depends on a common joint future and the realization of every human being's fundamental rights.
And it's interesting you say that were we to try to get the consensus today, it would be harder. I also think, Keddie, it's so interesting when you talk about that context of colonialism and post-colonialism in the late 1940s. But there were also many states from what we call the Global South today that were so important to lobbying for a strong statement on human rights and on self-determination. And we sometimes forget that in our histories when we emphasize people like Eleanor Roosevelt and others. There were other great activists at work from different parts of the world. But one of the critiques, I guess, and as someone who works on norms and law, I find this critique somewhat curious, but I wonder what your view is of it. One of the critiques of the UDHR is its non-binding nature, right? That this is one of its weaknesses. So is that a valid criticism? And how do we think about the place of the UDHR in our overall human rights structure internationally?
And maybe just to go back to your previous comments, Jennifer, you're so right to point out that there were many architects for that declaration. And I'm thinking particularly of Hansa Mehta, the Indian social activist and feminist, who we have to thank for changing the language from all men are born equal and free to all human beings are born human and free, and therefore paving the way later for the rights of women to be enshrined in constitutions and in legal frameworks around the world. Yes, I think there's been wide criticism around the binding and the non-binding nature of the declaration. I tend to balance that criticism with the realization that we have a lot of binding treaties and conventions today that are not fully adhered to. And to rather insist on the influence that the declaration has had on international laws, norms, treaties, and constitutions around the world. The declaration inspired many constitutions. It inspired various domestic laws in Canada. The Charter of Rights is inspired from the declaration itself. It inspired several conventions and covenants and treaties which are binding. And it set the stage for a minimum standard of how states engage and engage with their citizens. And for that, I don't think we can underestimate its power and its influence. It really created a benchmark, a foundation upon which international law therefore evolved. And so I would be among those who are less preoccupied by its binding nature and instead reflect more on its many offsprings and the influence it has had on all of us.
Un des avantages d'un balado bilingue comme le nôtre, c'est qu'on peut parfois noter des différences entre les versions anglaises et françaises des textes officiels. Donc, même s'il est vrai, vous avez tout à fait raison, Katie, que dans la version française, on parle aussi des êtres humains. Évidemment, la Déclaration universelle en français porte le titre de Déclaration universelle des droits de l'homme, alors qu'au Canada, au Québec, évidemment, on parle plutôt des droits de la personne ou des droits humains. Mais laissons cette question linguistique de côté. Je voudrais qu'on s'arrête un peu plus longtemps sur les tensions présentes dans ce texte fondamental dès les origines. Un des principaux débats sur la Déclaration universelle des droits donc, de l'homme et tout le système des droits de la personne de l'ONU porte sur cette relation difficile entre, d'une part, les droits civils et politiques, ce qu'on appelle peut-être parfois les droits formels, et d'autre part, les droits économiques et sociaux, ce que d'aucuns appelleraient les droits plutôt réels. C'est un très, très vieux débat qui remonte, on pourrait dire, à la Révolution française, ou déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y avait de vrais débats entre bon, le texte lui-même, qui est plutôt axé sur les droits civils et politiques, mais les éléments radicaux de la Révolution française voulaient déjà défendre les droits collectifs, les droits économiques et sociaux, ce qui va devenir finalement la fondation de l'État-providence, mais beaucoup plus tard, au 19e et au 20e siècle. Ce débat-là, il a aussi été très présent en 1947-1948, pendant la guerre froide. L'Occident aimait beaucoup mettre l'accent sur les droits civils et politiques, sur la liberté d'expression, sur la liberté d'association, par exemple. Et c'était une façon, rhétorique peut-être, de critiquer aussi l'Union soviétique et ses États satellites qui, eux, avaient fondé leur système ou la légitimation de leur système à l'échelle internationale sur les droits économiques et sociaux, sur l'égalité de leur point de vue économique et social. Alors, ce débat-là, est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui, Katie? À quoi ressemble-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore un écart si important entre, d'une part, par exemple, le droit de vote, les droits civiques, et d'autre part, une possible égalité en droits économiques et sociaux?
Vous brossez un très beau tableau sur la question. Effectivement, il y a eu ce fossé qui s'est creusé de plus en plus, particulièrement dans les années 60, et lorsque les deux pactes qui vont sortir de la déclaration, le pacte sur les droits civils et politiques, et en même temps le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, déjà créé ce fossé-là entre ces deux groupes de droits. Alors que dans la déclaration, les 30 articles font aussi bien mention des droits individuels, civiques et politiques que des droits économiques et sociaux. Et un des aspects fondamentaux qui est souvent oublié, c'est que ces droits-là sont universels, indivisibles et interdépendants. C'est cet aspect-là qui est souvent oublié. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y a encore des séquelles de ce fossé. Dans le sens où même actuellement, ça je le vois souvent dans le travail que nous faisons, on a l'impression, particulièrement dans les pays occidentaux, que les droits civiques et politiques, qu'il y a une hiérarchie entre les droits, et que les droits civiques et politiques sont peut-être plus pertinents, plus vrais, plus urgents, plus importants que les droits économiques, sociaux et politiques. Ce que les États du Sud ont toujours contesté, et ce qui n'est simplement pas vrai, puisqu'encore une fois, ces droits sont égaux et sont les mêmes. Donc, je crois qu'il y a encore des restes de ces différents. Et c'est aussi l'impact de la guerre froide, avec d'un côté, donc les 10 premiers droits dans la déclaration sont des droits très individuels et très liés aux droits civils et politiques. Il y a eu, je crois aussi, une instrumentalisation, une politisation des droits de la déclaration et des droits de la personne, particulièrement par l'Occident durant la guerre froide, en tenant un discours moralisateur, un discours des droits de la personne, mais qui ne tenait pas en compte les droits économiques, et sociaux et culturels. Tandis que l'Union soviétique et les autres pays en faisant partie, eux avaient mis en priorité ces droits-là. Donc, je crois qu'on voit encore des séquelles de tout ceci dans les relations internationales aujourd'hui, dans le sens où les pays du Sud en particulier, les anciennes colonies, de plus en plus ont un discours anti-droits humains, ou plutôt un discours anti-moralisation de l'Ouest, et ne supportent pas qu'on leur fasse la morale sur des droits humains, parce que pour eux, il y a eu une forme d'hégémonie de l'Ouest sur ces droits-là. Et maintenant, et je crois que c'est ça qui est dangereux, c'est que certains pays, et certains, particulièrement dans le Sud, associe les droits humains avec une dominance occidentale et associe la déclaration avec l'Ouest. Et c'est très dommage parce que au départ, la déclaration elle-même est vaste. Elle a véritablement une posture universelle. Donc oui, je crois que vous avez raison. Cela continue encore jusqu'aujourd'hui. On voit beaucoup d'accrochages, particulièrement au niveau des Nations Unies. On le voit récemment autour de chaque conflit, notamment le conflit en Ukraine et Russie. On voit qu'il y a une polarisation de plus en plus de certains pays, des pays du Sud, qui ont un discours différent, un discours qui remet en cause la validité de la déclaration et des droits humains. Donc, je crois que moi, personnellement, cela me désole dans le sens où c'est un petit peu comme on dit en anglais, throwing the baby with the bathwater. Donc, parce qu'il y a eu un parcours historique particulier où l'Occident a dominé sur le discours des droits de la personne, on lui tourne le dos complètement et je crois que c'est une erreur grave et que la déclaration est importante pour toutes les nations. Il faut simplement se la réapproprier de manière universelle.
Votre réponse nous amène au cœur de la deuxième tension que je voulais aborder avec vous, justement les origines de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans un contexte qui était encore le contexte colonial. Vous avez parlé un peu plus tôt dans votre réponse à Jennifer d'une certaine hypocrisie. Et il y a beaucoup d'historiens et de spécialistes des relations internationales aujourd'hui qui ont mis au jour les débats qui avaient eu lieu à l'époque, des historiens comme Mark Mazower, par exemple, et qui montrent que ce discours des droits humains, aussi universel soit-il, n'était pas nécessairement égalitaire, surtout à l'égard des pays colonisés. Donc là, il y a une critique qu'on comprend tout à fait et dont on comprend les séquelles que vous venez d'évoquer, l'idée selon laquelle les droits de la personne seraient entachés par leurs origines occidentales et coloniales. Mais en même temps, ce discours-là, il est repris de plus en plus, pas seulement par des mouvements, disons, anti-impérialistes ou anticoloniaux, mais aussi par des régimes autoritaires. Et par des régimes autoritaires dont l'influence est de plus en plus importante à l'échelle internationale et qui sont, de manière générale, en fait, hostiles, certainement aux droits civils et politiques, mais très, très souvent aussi aux droits économiques et sociaux eux-mêmes. Donc, ils utilisent un petit peu l'argument des origines occidentales comme une arme rhétorique, finalement, pour s'opposer à ces droits et puis violer, finalement, les droits individuels. Alors, dans un contexte comme celui-là, d'évolution des relations internationales, et j'ai vraiment envie de poser la question, à quoi ressemble l'avenir des droits de la personne? Et n'étant pas moi-même un spécialiste des droits de la personne, mais vous l'êtes et Jennifer aussi, j'aimerais bien, après vous avoir entendu, savoir ce que Jennifer en pense aussi. Quel est l'avenir des droits de la personne dans un monde plus dur, plus brutal, où les rapports de force sont plus violents, pourrait-on dire, que, en tout cas, ce qu'on espérait au cours des 30 dernières années?
Alors, tout à fait. Il y a, je crois, deux camps assez précis qui critiquent toute l'architecture des droits de la personne. Le premier camp, comme vous l'avez dit, est un camp plutôt anti-impérialiste, anti-colonial, qui remet en cause la légitimité des pays qui ont avancé les droits de la personne, les droits humains. Donc ça, c'est une critique de légitimité. Et c'est une critique qui elle-même est légitime, évidemment, puisque en 1948, voulez-vous, il y a une grande partie du monde qui n'avait pas le droit de s'exprimer. Donc, de ce côté-là, c'est une critique qui est vraie, qui est légitime, et je pense que j'ai un petit peu répondu dans ma première allocution. La seconde critique qui profite, comme vous le dites, de la première, d'une certaine manière, c'est la critique des pays autoritaires, aussi des pays qui préfèrent évidemment ne pas avoir à répondre à des droits internationaux, qui prônent un agenda nationaliste, qui disent « nous résolvons nos problèmes à nos manières, nous savons comment nous occuper de nos citoyens, nous n'avons à répondre à personne », qui bénéficient de cet ordre-là et qui encouragent une révolte silencieuse contre ces droits de la personne. Et là, on peut parler de plusieurs pays, on peut parler de la Chine, évidemment, on peut parler de plusieurs pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et on voit une véritable influence de plus en plus, particulièrement par la Chine et d'une certaine manière la Russie également, mais aussi plusieurs autres pays, où on se dit simplement, chacun s'occupera de ses affaires. Et on voit aussi que les nouvelles relations internationales qui se font, par exemple, entre certains pays et d'autres, promettent de ne pas s'ingérer dans les affaires nationales de ces pays-là. Donc, lorsque, par exemple, la Chine approche des pays africains, un des hameçons qui sont tendus, c'est vraiment le fait de la non-ingérence dans les affaires nationales d'un pays. Donc oui, il y a une récupération de ce discours anticolonial et anti-impérialiste qui est légitime par des États qui ont des intentions tout simplement de ne pas avoir à répondre à un ordre international quelconque. Et je crois qu'il faut distinguer les deux. Il faut distinguer la vraie critique et il faut répondre à cette critique qui est légitime. Il ne faut pas non plus dire l'autre côté est en train d'en profiter et de l'instrumentaliser pour ignorer les critiques vraiment légitimes qui ont été mises par les pays du Sud et les anciennes colonies. Il faut y répondre. Et d'un autre côté, il faut absolument continuer à avancer sur, évidemment, si j'avais la solution sur l'avenir du monde, on ne serait pas ici. Je crois que personne d'entre nous n'a une vraie solution, mais il est essentiel que tous les pays et tous les êtres humains aient pris de justice reprennent en main cette déclaration et ses principes de base qui sont universels. Parce qu'un monde dans lequel chaque État ne répond qu'à lui-même est un monde extrêmement dangereux. Il est extrêmement dangereux pour nous tous et c'est un monde qui a toujours évolué vers des conflits. Une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, que j'aimerais souligner, c'est que les principes qui sont énoncés dans la déclaration, ce ne sont pas des principes qui émergent comme ça de nulle part, dont on n'a jamais entendu. Ces principes-là, on les retrouve dans les sociétés traditionnelles dans le monde entier. Regardez la charte mandingue du XIIe siècle en Afrique de l'Ouest, elle est véritablement très très proche de la Déclaration universelle des droits de la personne. Vous regardez la Révolution haïtienne, par exemple, et les déclarations qui ont été émises à ce moment-là, vous avez là un peuple qui dit « voilà qui je suis et voilà quelles sont les normes et la manière dont nous devons vivre de manière digne et légitime ». Donc, si vous voulez, la déclaration n'est pas originale dans son contenu. Elle ne fait qu'exprimer, de codifier des principes de vie et de dignité humaine qui ont toujours existé dans l'humanité. Et c'est là où je pense qu'il faut, nous devons faire attention et faire en sorte que nous, encore une fois, nous ne jetons pas l'eau avec le bébé.
Ce rappel de l'universalité, je pense, est extrêmement important. Jennifer, tu as écrit aussi sur les droits internationaux de la personne. Est-ce que tu partages l'analyse de Katie?
In these two senses of critique that she talks about, I think there are interesting things to recover and also understand a little bit more deeply. So on this first issue of the anti-colonial critique, which as Keddy has mentioned, is absolutely legitimate, one needs to recall in the example she gave, but I'll give another, the way in which the struggle for rights globally in the 21st century was often centered in countries of the global south. So, for example, in a book I'm completing at the moment, I'm looking very closely at how the Atlantic Charter evolved to become the text of the UN Charter and how it was actually Latin American countries who were extremely unhappy with the kind of watering down of some of the ambitions of the Atlantic Charter and who fought to have strong wording around rights included in the ultimate UN Charter, but also, of course, how the struggle for rights, particularly in Latin America and its regional system of rights, is very strong. Turning to this question of authoritarian states, what I think is interesting about China in particular is that, at least my interpretation is the following, that there isn't a frontal assault in international diplomacy on rights, but rather this return to the question of what rights are we talking about and this hierarchy of rights. And you see in Chinese discourse and practice two things happening, I think. One is an elevation of the right to development, right? So the right to economic development is the primary right that we want to champion in different fora in the UN system. But secondly, what we want to elevate is this conception of human rights, which very much connects it to the relationship between a state and its people, and which doesn't necessarily include a legitimate role for the international community in promoting and enforcing human rights. So human rights is ultimately about a national context where it's about the relationship between a state and its people. And you need a state to implement any strong version of human rights. But of course, what's also built up through the UN system and through these treaties is the notion that there is a role for transnational actors, for international fora to assist in the promotion and protection of human rights. So the Universal Periodic Review process in Geneva, where every single country comes before the Universal Periodic Review to present its record on human rights. That's where I see authoritarian countries in particular taking a stronger stand to say, you know, we believe in human rights or a certain version of rights. What we don't accept is this idea that the international community tries to enforce them or has this role, which entails interference in our domestic affairs in promoting and enforcing them. And so I think that's the interesting twist that we're seeing in this current moment that Keddy describes with the return of nationalism and nationalist conceptions of rights.
And I would perhaps add just something here, Jennifer. I completely agree with you. I would actually also argue that not all of these countries are fully in agreement with the package of those 10 articles. So there is also a tendency to sort of design and customize human rights. I think you're absolutely right in the sense that these countries are challenging the international community's role in monitoring how a country implements their rights. But there's also a desire to sort of customize and choose what applies to one country versus another, which is also dangerous. And therefore, you see that some countries will agree on the rights to some, but maybe not the rights of women, not the rights of LGBTQ+ individuals, or will prioritize some economic and social cultural rights versus the right to water, the right to food, the right to shelter, versus the right to, you know, freedom of expression and assembly. So again, I think it's that element of customizing the rights to one's national context, which is also a significant reality today.
I think one thing that's also interesting when we go back to this hierarchy of the Cold War between civil and political and socioeconomic rights that you and Frederic discussed, you still see rights discourse in a number of instances where we're talking about socioeconomic phenomenon. So for example, I've been looking at the zero draft of the new pandemic treaty that's being negotiated in Geneva to try to improve our global system for pandemic preparedness and response. There is rights language very prominent in the preamble of that zero draft. And a real debate going on about the right to health. And what does the right to health mean? And so the debate plays out in these different contexts. So you have Western countries wanting a really good surveillance system for pandemics and for infectious disease outbreaks. And you have countries of the global South saying, well, what we think it means in this context is resources to build up very strong public health infrastructures so that we're actually able to act on the commitments we might make globally to any new surveillance system. So again, it's a focus on kind of the socioeconomic domain. So we still see these debates, but we don't see the disappearance of the rights framework, just its evolution in some troubling ways that you describe. But also, you know, I see it very front and center in this debate about global public health today. But let's turn, Keddy, since you have your role at Amnesty Canada as an organization that is meant to keep our own government honest and to remind Canadians about the importance of rights. Let's turn to Canada's relationship with the Universal Declaration and with bodies that promote and protect human rights. So last month, in early May, our Minister of Foreign Affairs, Melanie Joly, announced Canada's candidacy for a seat on the UN Human Rights Council for the 2028 to 2030 term. So a bit down the road, but nonetheless, not that far away. Could you speak to the place that Canada occupies within the international human rights space and how we should think about this latest bid for a seat on the UN Human Rights Council?
I think it's a space that has evolved over time. There was a time when Canada had an even stronger presence in the international space and in particularly multilateralism. It has evolved over the past decades, which is quite interesting. But Canada has always been very close to the multilateral system, to the United Nations, and has always believed, at least in theory and on paper, in the power of these institutions. We've also had very notable Canadians within the United Nations and various treaty bodies. I still remember as a teenager, Caroline McCaskey led a UN mission, a peace mission to my home country, Burundi, and had a great respect of the population. So there are a number of notable Canadians and a lot of expertise on the Canadian front on not only human rights, but the international multilateral system. Today, I think that the move made by Minister Joly is a bold one and is one that is potentially exciting for Canada, as we see Canada really putting its foot sort of back into the space after, of course, the failed bid to the UN Security Council, and to want to really be more active in the Human Rights Council is only on brand for Canada. And some of the priorities that have been highlighted are also quite timely. They're important today. But as to how Canada perhaps is perceived on the global scene and when it comes to human rights globally, I think Canada continues to enjoy an international reputation as a strong believer and leader on human rights. But this reputation, I don't think, can be taken for granted. I believe it's been eroding over time, particularly with the unique challenges that the world has come to know about human rights inside Canada on one end. The other piece is often Canada has been a quiet player, and I think there would be an opportunity definitely to play a stronger role in upholding human rights globally, but to do that in a way that is not selective, to do that in a way that is consistent, that is coherent across the board. We have seen Canada take very strong positions on very specific human rights violations and catastrophes, and rightly so. But to what extent is that engagement sustained over all other human rights crises? I think that is the test for Canada, and that is the space that needs to be occupied. The truth is that we have a vacuum in the international order today. Some could argue that the international order in itself and the United Nations in itself is in crisis, but we do have a significant vacuum. It's a moral vacuum. It's also a human rights vacuum. And there is space there, I think, for Canada to act more and to be stronger, more visible and bolder in the actions that it takes. Certainly, that's what I'm hoping will happen in the years to come. But right now, I think that's a position that still needs to be built and to be developed over time. I don't think, as I mentioned earlier, that one should rest on the very strong reputation earned over the years that were passed. I think that needs to be constantly revisited and that actions need to be matched with that sort of commitment, that verbal commitment that Canada has always had.
Pourriez-vous être un peu plus précis sur les lacunes ou la sélectivité du Canada en matière de droit international de la personne? Amnesty International n'a pas la réputation de mâcher ses mots. Et dans une préface que vous avez rédigée pour le programme des droits humains d'Amnesty International, l'édition de 2022, vous avez observé que le Canada ne remplit pas toutes ses obligations en la matière et sur plusieurs fronts. Je vous cite. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des principaux échecs et aussi de leurs conséquences? Parce que ce n'est pas qu'au niveau du discours que ces échecs peuvent avoir des conséquences.
Absolument. Et peut-être avant même de parler des défis au niveau du Canada, ou des défis domestiques, je dirais que même au niveau des questions internationales, on a vu par exemple le Canada s'engager de manière très forte sur la crise de l'Ukraine, récemment un peu plus sur le Soudan également. Mais ce ne sont pas les seules crises qui existent. Par exemple, lorsqu'il s'agit des droits de la personne qui sont bafoués dans des États où le Canada a des relations économiques assez importantes, nous voyons un discours complètement différent. Par exemple, la situation en Inde aujourd'hui, on entend moins la voix du Canada sur les violations des droits de la personne qui ont lieu en Inde. en Égypte, par exemple, ou dans certains pays même de l'Amérique latine, où les intérêts commerciaux, particulièrement miniers, du Canada, semblent être en conflit avec ces déclarations et ces principes du respect des droits humains. Je crois que ça, c'est un aspect particulier où nous voyons une tension entre les deux. Les intérêts économiques et commerciaux par rapport aux droits de la personne. Il n'est pas toujours évident que ce soit les droits de la personne qui y gagnent. Là, je vous donnerai même un exemple assez concret. Nous avons pendant longtemps poussé pour qu'il existe un bureau, une ombudsperson, qui puisse faire des investigations, enquêter sur ce que font les compagnies minières canadiennes à l'étranger et la manière dont elles bafouent les droits des personnes dans des pays étrangers, notamment des personnes autochtones, des populations autochtones. Jusqu'aujourd'hui, ce bureau, oui, était créé, mais sans les pouvoirs nécessaires pour pouvoir véritablement enquêter, faire en sorte que les entreprises canadiennes respectent les droits humains, les droits de la personne. Donc, on le voit aussi dans le régime des réfugiés, par exemple. Donc, il y a certains réfugiés et crises sur lesquelles on répond très fort avec des politiques très claires d'ouverture pour les réfugiés. Et puis lorsque, comme on l'a fait pour l'Ukraine, mais lorsqu'il s'agit d'autres populations, que ce soit l'Afghanistan ou d'autres pays en crise, la réponse n'est pas exactement la même. Donc, je crois qu'il y a d'abord un véritable problème de cohérence qui est important et qui doit être souligné. Maintenant, côté domestique, évidemment, la crédibilité du Canada sur les droits de la personne dépend de sa propre habilité à respecter ces droits-là sur son territoire. Et là, nous voyons qu'il y a encore une fois un grand écart entre les intentions, les déclarations, les principes et même les lois qui ont été mises en place et qui existent au Canada et leur application. Je pense particulièrement aux peuples autochtones, aux Premières Nations ici au Canada, dont la violation des droits a lieu, mais véritablement pratiquement sur toute l'étendue des droits de la personne. Que ce soit l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau, l'accès au territoire, l'environnement, l'accès au logement, les droits les plus fondamentaux ont été, pendant des années, et continuent à être violés et bafoués. Et ça, c'est important. Et puis, il y a des choses qui sont, je crois, encore assez incompréhensibles. Par exemple, le protocole sur la torture, le deuxième protocole optionnel sur la torture, qui permet aux organisations comme les nôtres et d'autres de pouvoir rendre visite aux gens dans les prisons et évaluer leurs conditions de détention, n'a toujours pas été ratifié par le Canada. Il y a encore des conventions qui n'ont pas été ratifiées par le Canada. On ne comprend pas pourquoi, venant d'un pays qui devrait être, encore une fois, un leader sur la question des droits de la personne. Donc, il y a des problèmes dans tout ce qui est la justice criminelle, dans tout ce qui est les droits particulièrement des populations qui ont été marginalisées, que ce soit les populations noires, les Premières Nations, certains réfugiés. Il y a encore énormément de travail à faire à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit aussi, au niveau des intérêts commerciaux, mais aussi de ce nouveau droit dont on n'a pas parlé, qui est le droit à l'environnement et le droit à un environnement sain pour tous. Et là, je crois qu'il y a un travail important à faire. Et il est essentiel de prendre vraiment ces choses-là en main pour pouvoir, encore une fois, avoir cette crédibilité et légitimité sur la scène internationale. Il est intéressant de voir que certains pays, encore une fois les pays autoritaires dont on a parlé tout à l'heure, vont utiliser par exemple les rapports que nous faisons. Le Canada a son UPR cette année, donc on peut s'attendre à ce que plusieurs nations et des pays, même des pays autoritaires, critiquent fortement le Canada pour son non-respect des droits de la personne sur son propre territoire. Et il n'y a personne à blâmer. Il ne s'agit pas de se lamenter sur cela. Il s'agit plutôt de vraiment faire une introspection profonde. Et au lieu de se lamenter sur cette instrumentalisation, plutôt se hâter à résoudre les défis qui existent ici au Canada.
Le UPR, c'est l'examen périodique par les pairs au Conseil des droits humains. Mais en tout cas, ça nous permet de voir que les droits de la personne, c'est beaucoup plus que cette question des prisonniers politiques, laquelle, par exemple, Amnesty International a souvent été associée, notamment dans les lettres que nous écrivions adolescents à l'école secondaire.
Et qu'il faut toujours écrire.
Bien sûr, bien sûr. Jennifer, je te laisse le mot de la fin.
But for now, that's it for our special episode marking the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. We'd like to thank our guest, Keti Nivyabandi, Secretary General of Amnesty International English Section. To learn more about the McGill University Center for International Peace and Security Studies, please visit us at sepsi-sips.ca. Follow us on Twitter at sips_McGill. Subscribe for more episodes of Tour de Table, available on our website and on the website of the Max Bell School of Public Policy.
Et pour en apprendre davantage aussi sur l'Université de Montréal, le département de sciences politiques et notre centre d'études et de recherche internationale, le CERIUM, vous pouvez me suivre sur Twitter, parfois sur Mastodon, où j'aime partager les activités et les analyses de mes collègues.
That's it from us. Thank you to Karim Farage, our producer. We hope you enjoyed listening.